10 octobre 2022. Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Présence. Ravi de vous retrouver ce soir pour parler pendant une heure de sport. Pour m'accompagner autour de la table, Coraline, notre arbitre, notre source de vérification, pour ne pas dire de sottise. Bonsoir Coraline.
Bonsoir Jonathan, bonsoir à tous.
Vous allez bien, vous avez passé un bon week-end?
Très bien, très très bien.
Malgré
très
la, bien. La défaite de la section paloise.
Mais c'est bien, on commence à s'y habituer, voilà.
Bah c'est bien ça, c'est encourageant. Il est de retour après une semaine d'indisponibilité. Il est notre Monsieur Suisse, qui lors des débats, c'est toujours un petit peu entre deux chaises. Voilà, on est un petit peu tiède avec Corentin Cougoul. Bonsoir à vous.
Bonsoir Jonathan.
Parce que vous aussi, vous allez bien.
Oui, ça va très bien. Et là, très bien. Je suis bien sur ma chaise.
Vous êtes... on verra ça pour le débat. Vous vous affolez pas trop non plus. Vous l'entendez souvent sur Radio Présence dans des émissions qui commencent généralement par la lettre M, pour pas dire tout le temps par la lettre M, Mélomanie, Métropole et vous, la mêlée de l'info et la matinale le mercredi. Il nous fait l'honneur, la gentillesse, la délicatesse d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Éric Dupri.
Bonsoir, mais n'en faites pas trop quand même. Hein. Je n'en crois rien de tout ce que vous dites.
Non, on n'en fait pas trop, mais voilà. Sur votre demande, une petite musique, voilà, pour vous introniser, c'est pas mal.
Ouais, c'est gentil.
Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi?
Alors cette musique, c'est une musique du groupe Les Wampas. Bon, je suis pas vraiment un fan de rock, mais Les Wampas, eux, ils sont fans de cyclisme, notamment Didier, le leader, et ils ont fait une chanson dédiée à Julien Alaphilippe. Donc le titre de la chanson, c'est Julien. Voilà. Il y a plus de 20 ans, il y avait une chanson dédiée à Laurent Jalabert, vous voyez,
qui s'appelait
Jaja.
Jaja. Voilà, ils sont pas foulés sur le titre. Voilà.
Et je crois qu'ils sont bientôt bikini, les Wampas.
Très bien, du côté de Toulouse. Corentin, Coraline, pas de musique pour votre introduction. Vous, dans l'émission, vous êtes pas trop jalouse, c'est bon?
Non, ça va. Non,
on va y penser quand même.
C'est bon.
Trouver une petite musique.
Eh bien, écoutez, on va pas l'écouter en entière, cette musique. On va revenir sur le programme de cette heure. On va retrouver les tops et les flops de ce week-end. Les sportifs qui ont sous-performé et ceux qui ont plutôt bien réussi. À suivre, un entretien face à face avec Monsieur Robert Redeker, philosophe et professeur agrégé de philosophie, auteur de nombreux livres, dont le dernier, Sport, je t'aime, moi non plus, aux éditions Robert Laffont. Il sera avec nous pour nous parler d'un sujet malheureusement bien d'actualité, la violence dans les stades, ce fléau pour les spectateurs, le spectacle et aussi les sportifs. L'exemple le plus récent, c'était le match d'hier soir du RC Lens face à Lille. On en parlera lors du face-à-face. Ensuite, il sera l'heure de débattre avec le sujet suivant. Après les mondiaux en Australie et à l'approche de la fin de la saison de cyclisme, faites-vous un bilan positif de nos Français et Françaises? Venez débattre avec nous au 08 92 46 0012, 08 92 46 0012 ou sur les réseaux sociaux. Notez bien ce numéro, hein, il peut être utile car il vous permet dès à présent de vous inscrire pour le jeu qui clôturera cette émission. C'est un petit peu comme le matin, on explique, il faut appeler le 08, taper 2, comme pour le jeu du matin. Vous choisissez votre chroniqueur qui de Coraline, Corentin ou Eric remportera le jeu d'aujourd'hui. Et ce soir, après les charades qui, la semaine dernière, ont visiblement pas toutes été comprises, hein, n'est-ce pas, Antoine de Saint-Exupéry?
Exactement, effectivement, Antoine de Saint-Exupéry,
ouais.
Pour citer...
Belle coquille, la semaine dernière.
Ouais, exactement.
Antoine de Maximus.
Ouais. Non, c'était Thomas Dupont, c'est ça?
Thomas, ouais,
voilà.
Dupont pour Florian,
ouais,
voilà,
non,
c'était
voilà,
catastrophique.
Quelque chose bien sympathique.
Merci, si vous êtes encore là ce soir, merci d'être fidèle, hein, vous méritez de gagner des cadeaux. En tout cas, ce numéro, vous avez jusqu'à 19h50 pour appeler et participer, et ensuite, ce sera aux chroniqueurs de relever leur tâche. Mais on commence tout de suite avec... L'information sportive en région, c'est avec Corinne Saint-Félix et c'est tout de suite sur Radio Présence.
L'info sport avec Corinne Saint-Félix.
Et on commence avec l'actu de la Coupe du Monde féminine de rugby. Les Bleus écrasent l'Afrique du Sud.
Et oui, l'équipe de France s'est facilement imposée 40-5 samedi, à une semaine d'une rencontre capitale contre l'Angleterre. Les Bleus, versés dans la poule C, ont signé 6 essais, dont un doublé de leur demi de mêlée. Laure Sensus, désignée joueuse du match. Elle s'octroie ainsi un point de bonus précieux dans la course au classement en vue des quarts de finale. Parmi les joueuses, 7 viennent du club de Blagnac Rugby féminin, 5 du Stade Toulousain et 5 de Montpellier.
Ah, en top 14, le Stade Toulousain conforte sa place de leader.
Grâce à sa charnière internationale Dupont-Ramos, le Stade Toulousain largement battu Clermont 46-10 samedi avec 4 essais de Dupont, Roumat, Capuoso et Jaminet. Vainqueur avec le bonus, les hommes du Gomola confortent leur victoire de la semaine dernière chez le champion en titre Montpellier, ainsi que leur place de leader du top 14. Le Stade Toulousain compte déjà 6 points d'avance sur sur son dauphin du moment, le RC Toulon.
En Ligue 2, match nul entre Pau et Rodez.
Le Pau FC n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul ce samedi soir face à Rodez, 2-2 au Noustekamp, un adversaire direct pour le maintien. C'est insuffisant à concéder l'entraîneur palois Didier Tolo. Le Pau FC reste 16e de Ligue 2 à l'issue de cette 11e journée. Rodez est 15e au classement. En Ligue 1, le TFC a lui décroché un match nul à Lyon. Score final 1-1.
Des milliers de participants au départ de la Cadurcienne 2022.
Et oui, ce dimanche 9 octobre, 3500 participantes étaient sur la ligne de départ. Le record de 2019 est presque tombé. Les inscriptions de cette course-marche solidaire sont reversées à la Ligue contre le cancer 46 et à la recherche pour la lutte contre le cancer du sein. Cette course a une nouvelle fois rassemblé toutes les générations. Et puis notez, Jonathan, que la présentation des parcours 2023 du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Swift aura lieu le 27 octobre prochain au Palais des Congrès.
Merci beaucoup Corinne Saint-Félix, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Les premières séquences de cette émission, les tops et les flops de ce week-end, quels sont-ils ?
Les tops et les flops.
Et l'habitude, honneur aux dames, ce soir, à vous Coraline. On vous laisse présenter votre top et votre flop.
Mon top, Corinne Saint-Félix en parlait dans son journal, les Bleus ES. À la Coupe du Monde du rugby, bon démarrage de nos tricolores samedi face à l'Afrique du Sud. Score final 40-5, prochain match de l'équipe de France féminine du rugby samedi à 9h face à l'Angleterre, vainqueur du dernier tournoi des 6 nations.
Bravo, cocorico pour l'équipe de France qui entame bien son tournoi. Le flop me semble un petit peu plus écologique.
Oui, écologique, humain, enfin un peu tout, on va dire. Effectivement, sur les Jeux Olympiques asiatiques qui ont été attribués à l'Arabie Saoudite.
Tout à fait logique.
Exactement. En plein questionnement sur la Coupe du Monde de foot au Qatar, le Conseil Olympique d'Asie a attribué les Jeux Olympiques d'Asie d'hiver de 2029 à l'Arabie Saoudite, pays où les droits humains ne sont pas toujours respectés, sans parler des droits des femmes et des communautés LGBT. Ça commence d'ailleurs très bien, c'est un euphémisme. Trois hommes ont été condamnés à mort pour avoir refusé de quitter leur maison. Voilà.
Super. Vous avez bien... Vous avez bien motivé là, Coraline.
Exactement, non, mais quand il y a des choses qui ne vont pas, plutôt que de s'offusquer à 2 mois de la Coupe du Monde, je préfère m'offusquer maintenant.
Oui, eh bien écoutez, merci, Coraline. Vous avez bien plombé l'ambiance.
Bien mis l'ambiance.
C'est un flop.
Ouais, bah là, on est plutôt pas mal. Du coup, ensuite, c'est Corentin Cougoul qui va s'en occuper, qui s'occupe du volume dans les casques. Vous avez fini, Corentin?
Je crois
vous êtes revenu, vous avez bien
c'est
fait
ma faute, c'est moi qui vais demander.
Très bien.
C'est bon, c'est bon.
Votre top et votre flop, Corentin.
Allez, pour mon top d'abord, c'est parti. On va parler Bretagne, on va parler Morbihan. Ouf. Et on ne va pas parler des résultats du troisième tour du trophée du Morbihan qui se déroulait ce week-end, mais plutôt du FC Lorient qui surprend et qui a remporté son derby face à l'ennemi brestois et donc se hisse à la seconde position de la Ligue 1 Uber Eats juste derrière l'ogre parisien. C'est une formidable performance, c'est un formidable début de saison pour les hommes de Régis Lebris qui sont le 12e budget de Ligue 1, donc à souligner quand même cette surprenante équipe de Lorient.
Ça fait un concurrent en moins pour le maintien, puisque oui. Toulouse va sûrement le jouer cette année avec 4 descendants de Ligue 2. Donc, un concurrent en moins, mauvaise idée.
Ce qui quand même permet de remettre en contexte le match nul que le TFC a fait contre Lorient avec 2 buts marqués, 2 buts encaissés, donc un score de 2 buts partout. C'est quand même le second de Ligue 1, donc c'est un point précieux qu'a finalement remporté le TFC ce soir-là.
Très bien. Et votre flop ?
Un flop.
Ne parlez pas de meurtre ou d'attentat ou ce que vous voulez là.
Non, on va parler sport mécanique avec la Formule 1 et la FIA qui fait n'importe quoi. Ce week-end se tenait le Grand Prix de Suzuka.
Tapez du poing sur la table, Corentin.
Je tape du poing sur la table avec le Grand Prix de Suzuka qui se tenait au Japon hier, où on a pu assister donc à un Grand Prix qui s'est déroulé sous une pluie diluvienne avec des pilotes qui ont couru de très gros risques, notamment avec un tracteur qui a été mis en bord de piste pour permettre de dégager un véhicule accidenté. Mais cette situation n'a pas été du goût de tous les pilotes car justement c'est une situation à laquelle on a déjà été confronté 8 ans auparavant lors de justement l'accident mortel qu'a connu Jules Bianchi. Et des pilotes se sont insurgés contre cette situation, dont Pierre Gasly qui a déclaré que c'était irrespectueux envers Jules et qu'il était heureux d'être en vie et que c'est une situation dont ils ont parlé déjà des millions de fois. 8 ans plus tard, on peut dire que la FIA n'a pas encore appris de ses erreurs.
Eh bien voilà, un accident pour terminer. C'est bien d'être là ce soir. Eric, s'il vous plaît, sortez-moi de ce pétrin-là.
Rassurez-vous.
Ah, merci.
Tout va bien se passer.
Heureusement que vous êtes là, Eric. Votre top et votre flop de ce soir.
Ben, moi, je suis venu pour parler de cyclisme ici, donc je persiste et signe.
Oui.
Mon top, c'est Tadej Pogacar, qui a gagné son deuxième tour de Lombardie samedi. Il avait la méga pancarte, il était ultra favori, ben, il était au rendez-vous. Il est sorti dans une des dernières ascensions. Il y a Henrik Maas qui a pu le suivre. On a perdu Coraline, mais elle va revenir, je suppose.
Et vous
l'avez vexé, je pense que vous l'avez vexé. Et voilà, donc il s'impose au sprint devant Maas. Pogacar, c'est le cycliste qui est là du début à la fin de la saison. Donc trois monuments déjà, hein, à 24 ans. Même s'il n'a pas gagné le Tour de France cette année, ça reste un coureur extrêmement impressionnant, un attaquant donc, qu'on aime voir sur la route.
Un homme qui vous fait rêver sur un vélo ?
Bah oui, enfin, en tout cas, moi, c'est le genre de coureur que j'apprécie. Je ne sais pas s'il me fait rêver, mais en tout cas, j'apprécie de le voir en course.
Et pour votre flop ?
Le flop, ça va être aussi au Tour de Lombardie. Malheureusement, c'est un Français, et Dieu sait pourtant que je l'aime, Julien Alaphilippe. Lui, en revanche, il avait annoncé qu'il pensait être en forme, il pensait pouvoir jouer un rôle sur cette course. Ben, malheureusement, il n'a pas existé. Déjà à 60 km de l'arrivée, dans une ascension, les UAE ont mis un gros tempo. Il a sauté avant le sommet, il est revenu dans la descente, et puis dans la montée où Pogacar a attaqué, il a très rapidement baissé pavillon. Bon, ben voilà, une année qui aurait été, contrairement à celle de Pogacar, qui aurait été noire de bout en bout, le pauvre Julien Alaphilippe, qui finit la saison sans son maillot de champion du monde, avec deux petites victoires au compteur dans des courses secondaires. On espère pour lui que 2023 se passera beaucoup mieux, mais bon, moi je compte sur lui pour vite reprendre le dessus.
Et Julien Alaphilippe qui s'entraîne dans nos Pyrénées, puisqu'il habite en Andorre.
Alors il habite en Andorre effectivement, mais il est à cheval entre la Belgique et Andorre, donc il n'est pas tout le temps
C'est
là-bas.
À côté, là, c'est vraiment à quelques
kilomètres.
Je pense
kilomètres. Que là, dans les semaines qui viennent, il sera sans doute là-bas.
Très bien. Personnellement, mon top, on va passer du côté un petit peu plus régional. On reste en Occitanie. Thomas Ramos, forme étincelante avant la liste du 15 de France. 26 des 46 points inscrits. Toulouse face à Clermont, il a mis 2 essais, 7 sur 8 au pied, 115 mètres, ballon en main, de belles passes, surtout pour Mathis Lebel et Ange Capuozzo. Un poste où en France, en équipe de France, il y a un vivier important, Melvin Jaminet, Thomas Ramos, Brice Dulin, Max Spring, sont tous en concurrence, sans compter la polyvalence aussi de Astoy et de Mathieu Jalibert. La tournée d'automne, pardon, ça commence le 5 novembre à 21h, France-Australie. Rapidement, Thomas Ramos, pour vous, équipe de France, sélectionné, titulaire, pour tout le monde ?
Alors, ça c'est compliqué, titulaire, je sais. Oui. Normalement c'est Romain Tamac à l'ouverture,
mais il est blessé,
le titulaire du poste à l'arrière c'est Jaminet qui manifestement s'est très bien intégré à Toulouse. Donc... Mais je pense que oui, il aura sans doute sa chance peut-être contre le Japon justement, puisque le match va avoir lieu à Toulouse. Donc là, peut-être sera-t-il titulaire contre le Japon à Toulouse à l'arrière. Bon, sa polyvalence plaide pour lui, en tout cas pour être dans le groupe, ça c'est certain.
On nous indique déjà en message privé sur les réseaux sociaux que Mathieu Jalibert n'est pas dans une grosse saison et que un certain Thomas Ramos sera largement titulaire.
Et puis Tamac est blessé actuellement.
Et puis Tamac est blessé.
Pour la tournée. Mais
le premier match de cette tournée d'automne, le samedi 5 novembre à 21h, France-Australie. Le flop, les supporters impliqués dans des jets de projectiles sur la pelouse de Lille-Lens hier soir, dans un match qui respire la passion des nordistes. Pour le foot, forcément, une fête qui a été gâchée pendant quelques minutes à cause du guignol qui ont décidé de mettre le bazar dans le stade. On va instaurer plus de caméras, peut-être, dans les stades pour repérer et interdire de stade à vie tous ces supporters problématiques. Les déplacements de supporters ne doivent pas être remis en cause à cause de certaines personnes. Je ne vais pas dire le mot que j'ai écrit pour rester poli, mais pour ces personnes-là qui sont dans les stades uniquement pour gêner, pour déranger, pour gâcher le spectacle, il faut faire du cas par cas. Ça prend du temps et les instances, en espérant qu'elles vont se réveiller, parce qu'il y a déjà eu un drame en Indonésie avec plus de 100 morts lors d'une émeute dans un stade, on espère que ça ne va pas arriver en France, ce serait un cataclysme pour le sport français. Justement, le sport français, on en parle aujourd'hui, l'état de ces stades, on en parle aujourd'hui avec l'invité du face-à-face.
Esprit Sport, le face-à-face.
Monsieur Robert Redeker est notre invité ce soir, bonsoir à vous.
Bonsoir, bonsoir aux auditeurs également, et bonsoir à mon ami Eric Dupri, qui a très bien parlé du Tour de Lombardie et du vélo, passion que je partage avec lui.
Eh bien, merci d'être avec nous ce soir, Monsieur Redeker. Alors, vous êtes philosophe, professeur agréé de philosophie, vous êtes aussi auteur de nombreux livres. Le sport contre les peuples, peut-on encore aimer le football, ou encore ce dernier ouvrage que j'ai entre les mains paru cette année, Sport, je t'aime, moi non plus. Vous êtes aussi, et même surtout, un amoureux de sport.
Oui, mais avec de l'ambiguïté nécessaire à tout amour, n'est-ce pas? D'un côté, le sport m'attire, et comme il attire tout le monde, mais de l'autre côté, on voit par quoi il est... Vous parliez tout à l'heure des affaires de supporters. Donc, par quoi il est rongé, par la violence, par sans doute la corruption, sinon comment expliquer certaines... attribution de grandes compétitions à certaines villes ou certains pays où ça paraît un peu déplacé. Donc par la violence, par la corruption et je crois au fond par le délire de l'argent.
Qui prend une place de plus en plus importante dans ce monde sportif.
Oui, à tel
trop
point
peut-être.
Qu'on peut se poser la question suivante, mais ça concerne surtout le football. Est-ce que quand on parle du mercato, quand on apprend par Forbes que le revenu annuel de Mbappé, c'est 12 millions d'euros, on se demande si finalement le football n'est pas en train de devenir une propagande, non pas pour lui, mais pour l'argent fou,
et justement,
l'argent de la bourse, celui qui a causé la crise de 2008. Donc, le côté « je t'aime moi non plus », c'était ce côté-là. Le côté « moi non plus », mais le côté « je t'aime », c'est sans doute ce qui nous rassemble, vous et puis moi.
Justement, quel est
l'intérêt pour le sport.
Quel est le rapport que vous avez avec le sport, puisque vous avez pratiqué des sports collectifs, le foot et le rugby, notamment le samedi matin entre universitaires à Toulouse, vous disputez des matchs hors institution avec des règles sans arbitre, il n'y avait jamais de problème. Pourquoi, alors vous nous avez parlé de votre passion pour le vélo, pourquoi dans une région comme la nôtre, pourquoi se diriger vers le vélo? Parce que le foot et le rugby sont presque religieux en Occitanie.
Mais c'est une région de vélo, même en ce moment. Hein. Nous avons Benjamin Thomas qui est de l'Avreur, Sivakov qui est quand même un pur produit du cyclisme de la Haute-Garonne. Il y en a... Alors, je n'ai pas tous les noms en tête, mais si on regardait la liste des coureurs professionnels brillants, beaucoup sont de notre région. Voilà. C'est un pays de rugby, de vélo, de football. Alors pourquoi je me suis intéressé au cyclisme? C'est très curieux. C'est presque une rencontre de hasard. Un jour, lorsque j'étais enfant, quelqu'un que j'allais admirer, Felice Gimondi, m'a serré la main. Voilà. Et alors, on m'a dit, c'est Gimondi, vainqueur du Tour de France de Paris-Roubaix. Ça m'a émerveillé.
Un simple contact vous a émerveillé. C'est aussi ça, le sport. Éric Dupri a une question à vous poser.
Oui, en fait, oui. On disait, vous parliez des cyclistes originaires de la région, mais il y a une chose qui est peut-être aussi une religion dans notre région, c'est le passage du Tour de France dans les Pyrénées tout de même.
Oui, bien sûr.
Ce qui a fait naître, je pense, beaucoup de vocations parmi les jeunes sportifs qui vivent au pied des Pyrénées, mais aussi dans la région toulousaine et ailleurs.
Oui, oui, cela, bien sûr, éveille des vocations. Mais il y a aussi la ronde de l'Isard qui vient de se terminer, qui est une course très difficile. Alors c'est beaucoup moins connu du grand public, mais je crois que c'est le lieu où les vocations déjà révélées peuvent s'essayer, notamment des vocations régionales, au contact de grands coureurs espoirs, de grandes équipes et d'autres nations.
Alors vous avez fait aussi du cross-country, ce vélo un petit peu plus sportif, comme une certaine Pauline Ferrand-Prévot qui a été championne du monde. Quel regard vous portez sur le sport en général en 2022? Je pose cette question d'abord à Robert Redeker, le sportif, et après on demandera l'avis peut-être du philosophe.
Alors le sportif, c'était autrefois, n'est-ce pas?
On est toujours un petit peu sportif encore, même maintenant.
Ma jeunesse, oui, on est un petit peu. Mais le sport, maintenant, pour moi, c'est d'aller promener, de faire la promenade du chien pendant une heure tous les matins. À mes 68 ans, ça me suffit, cela. Voilà, c'était quoi votre question?
Le regard que vous portez sur le sport d'aujourd'hui, en 2022?
C'est un regard inquiet. Inquiet de la place grandissante que prend donc l'argent et la communication dans le sport. Voilà. Mais je dois dire que je dois nuancer cela. Voilà. Il y a quelques années, j'étais persuadé, et c'est ce que l'on avait sous les yeux, que dans le cyclisme, par exemple, que c'était devenu un sport très très normalisé, qu'il perdait son intérêt de spectacle, un sport presque, enfin, où tout était comptabilisé et où l'on attendait le dernier kilomètre de la dernière étape, dans la dernière côte, pour prendre des risques. Donc c'était la prudence qui dominait. Et aujourd'hui, ce à quoi nous assistons depuis 2-3 ans, avec l'éclosion de champions tout à fait extraordinaires, qu'on a jamais vu sans doute depuis les années 50, c'est un cyclisme beaucoup plus offensif et beaucoup plus ouvert, un cyclisme champagne et pétillant. Et je remarque la même chose dans le rugby.
Le rugby devient un petit peu comme le foot, le rugby se mue un petit peu comme le foot.
Non, ce que je voulais dire, c'est un petit peu le contraire d'ailleurs, c'est que le jeu est beaucoup plus spectaculaire qu'il y a une dizaine d'années. Voilà, le rugby essuie des critiques. Pas seulement à cause de ce qui se passe institutionnellement,
oui, surtout à la fédération, en ce moment, oui.
Fédération, mais il essuie des critiques au sujet de. Alors on ne sait pas comment. Je ne vais pas faire de mauvaise langue. Donc on ne sait pas comment tant de joueurs prennent des proportions physiques aussi importantes et ce qui entraîne des problèmes de santé très très graves
à cause des contacts, notamment etc. sur les fins de carrière, oui.
Voilà. Et après la fin de carrière, une mortalité précoce, trop précoce, etc. Donc ça, c'est le rugby subit des critiques, mais je trouve que de notre côté, il est beaucoup beaucoup plus spectaculaire qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années.
Éric Dupri ?
Oui, juste pour réagir à ce que vous venez de dire, effectivement, bon, ça, il y a eu toutes ces affaires de dopage, et ça commence déjà l'année 98 de sinistre mémoire sur le Tour de France. Ça existe dans d'autres sports, on le sait. Il y a l'aspect informatisation aussi du sport. Tout est suivi maintenant sur ordinateur, les performances des rugbymen, le nombre de mètres qu'ils ont parcourus durant un match. Mais il y a quand même une chose qui, me semble-t-il, demeure, c'est la beauté du geste. Et comme vous le disiez aussi, la prise de risque, la prise d'initiative. Pour certains sportifs, pas tous, mais il y en a encore qui ont gardé ça à l'esprit.
Il y a beaucoup plus de prise de risque aujourd'hui, au moins dans deux sports. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas dans le football, mais au moins dans le cyclisme et dans le rugby, il y a une dizaine d'années. C'est un changement de mentalité avec de nouvelles générations. Alors dans l'équipe de France de rugby, évidemment, mais donc avec de nouvelles générations. Mais d'un certain côté, on peut bien comparer Romain Ntamack à Evenepoel ou Pogacar. Il y a quelque chose de chez dans toute cette jeunesse sportive, de cette nouvelle génération sportive, il y a quelque chose de qui n'existait pas il y a 10-15 ans.
Vous nous avez parlé d'argent, de spectacle. Est-ce que vous pensez que la mise en lumière de certains sports, je pense à la F1, la MotoGP et au vélo, qui va avoir une série sur les plateformes de streaming, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles façons d'attirer peut-être un jeune public, ou en tout cas de rendre ces sports plus spectaculaires? On a vu que les séries sur la F1 ont notamment amené beaucoup, beaucoup de personnes vers les sports mécaniques. Est-ce que vous pensez que ça va être le même état des lieux avec le vélo?
Plus on suscite de vocation, mieux c'est. Alors, mais de notre côté, je suis attaché aux formules traditionnelles du vélo, c'est-à-dire les classiques, les critériums, les grands tours, comme cela se fait depuis un peu plus d'une centaine d'années. Et je me méfie un petit peu des innovations dans lesquelles entrent beaucoup de cônes.
Les bus, les caméras qui vont entrer dans les bus lors du Tour de France pour le prochain documentaire, est-ce que vous pensez pas que ça va désacraliser un petit peu le mythe du sportif?
La sacralisation ou la sacralité du champion cycliste est arrivée, et je l'ai connu comme ça, vous êtes trop jeune, est arrivée quand il n'y avait pas de retransmission télévisée. Voilà, c'est arrivé par la presse écrite, c'est arrivé par la radio. Alors on écoutait à la radio ce qui se passait sur le Tour de France. Et lorsque j'étais enfant, on ne voyait que... Robert Chapat, on ne filmait pour la télévision, il n'y avait qu'une seule chaîne, c'était du noir et blanc, que les 10, 15 ou 20 derniers kilomètres. Souvent, ça ne marchait pas. On attendait cela avec impatience. Et finalement, il y avait tout un côté onirique, c'est-à-dire le mystère. Le mystère des champions que l'on ne voyait pas beaucoup de nos yeux. On n'avait pas beaucoup un acte qui était surtout décrit par le talent, Georges Briquet par exemple, ou par le talent des journalistes, que ce soit des journalistes de fait ou d'autres qui commentaient. Voilà. Alors, ce dont vous parlez, c'est finalement le règne de la transparence. C'est-à-dire, on veut aller...
On veut en savoir plus, on veut en voir plus, on veut en avoir plus.
Sur des à-côtés de ce qu'est le spectacle sportif, et je ne suis pas persuadé que ça ait un grand intérêt.
Robert Edeker, vous êtes aussi philosophe. On a entendu en août dernier, on va revenir un petit peu au terrain vert, au rectangle vert, l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a dit « Ce qui se passe dans les tribunes est malheureusement le reflet de la société ». Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Alors la question que l'on se pose, pourquoi cela se passe-t-il dans le football et pas dans les autres sports collectifs?
C'est la question que j'allais vous poser.
Voilà. Pourquoi? Et puis lorsqu'il y a le Tour de France cycliste, alors ce n'est pas une enceinte fermée, il y a des millions de personnes qui regardent passer les coureurs, et cela se passe dans une ambiance sympathique et bon enfant. Alors ce que je dis là, je ne stigmatise pas le public du football, je sais que c'est une minorité, et qui viennent dans les stades pour créer des incidents. Pour
il y a eu des incidents au vélo, on l'a vu avec la spectatrice avec sa pancarte qui a été percutée par un cycliste qui était
oui.
en
pente. Un autre registre, ça.
Oui, ça n'avait pas pour but de ça avait pas pour but de gêner, de déranger. C'était juste une spectatrice qui voulait avoir son moment de gloire. Mais on voit que, effectivement, comme vous l'avez dit, Robert Edeker, ce problème n'arrive là qu'au foot, au rugby et ailleurs, au tennis. On ne voit pas de moment comme ça.
Non, et là, je vous assure que c'est pour moi une énigme. Donc, alors, il est vrai que les associations de supporters de football incitent à une sorte de... et la presse autour, d'ailleurs, jette de l'huile sur le feu.
La presse participe à cette violence?
Souvent, elle jette de l'huile sur le feu en, en disant ça, Marseille-Auxerre, enfin c'est plus Auxerre, mais Marseille-PSG, ça va être la guerre, les nerfs sont à vif, donc on remue les couteaux dans les plaies, et on emploie un vocabulaire guerrier, et ensuite on s'étonne et on se lamente qu'il y ait eu des débordements tout à fait regrettables.
Alors, vous parlez de guerre, mais rassurez-vous quand même, rassurez-nous, s'il vous plaît, pour les jeunes parents peut-être qui nous écoutent, est-ce qu'ils vont pouvoir amener leurs enfants dans les stades sans être pris à partie ? Est-ce que vous avez un message d'espoir peut-être pour tous ceux qui nous écoutent ?
Vous pouvez amener vos enfants.
Mais pas au foot.
Voir un match de rugby, voir un match de handball. Tout se passera très bien, ce sera très sympathique, mais alors je n'ai plus l'âge d'avoir des enfants, si vous voulez. Mais si j'en avais, je ne les amènerais pas. Parce que même avec le TFC, il y a des. On a vu TFC Montpellier. Mais si j'en avais, donc je ne les amènerais même pas au stadium voir le TFC. Par contre, Ernest Vallon, voir le stade toulousain, oui.
Voilà, pour aller voir et ovationner les rouges et noirs et les oui. Ovalions. Merci beaucoup, Robert Redeker, d'avoir été avec nous ce soir. On peut éventuellement vous garder pour le reste de l'émission. Vous allez voir, il y a un débat qui sera très intéressant à suivre. Après les mondiaux en Australie et à l'approche de la fin de la saison de cyclisme, faites-vous un bilan positif de nos Français. C'est la question à laquelle on va tenter de répondre. Merci beaucoup, Robert Redeker, d'avoir été avec nous.
Merci. Bonne soirée aux auditeurs aussi.
Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Benjamin Biolay qu'on retrouve avec Parc Fermé, une musique qui lui rappelle ses passions de sport mécanique. Tout de suite, c'est Parc Fermé sur Radio Présence.
Sur le macadam, pavé, c'est presque rien, mais j'en fais tout un drame. Yeah, 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 yeah. Fermé,
tant pis, je vais tenter de boire un verre.
Cassé,
au milieu de milliers de solitaires.
Je sais, je n'aime la mer que lorsque je suis sur terre. Yeah, 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 yeah. Parc fermé. Je sentais bien que la terre penchait dès le début. Nous portions des moutelles au bon temps de la Samaritaine.
De regarder passer la vie des gens.
Passer et par le grand soleil chauffé à blanc. Qu'on se touche. Yeah, 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 parc fermé. Je vais me contenter d'imaginer l'effet que ça ferait de t'embrasser. Je sais que rien ne pourra jamais te remplacer. Ni ta bouche. Yeah, yeah, yeah. Parc fermé. Un imprévu. Je sentais bien que la terre penchait dès le début. Nous portions des moutelles au bon temps de la Samaritaine. Y'a plus que des vieux. Sur le pont neuf, y'a plus que des vieux. Sur le pont neuf, y'a plus que des vieux. Yeah, yeah, yeah.
Benjamin Biolay qui a roulé sur le circuit Paul Ricard dans le Var avec une F4. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote sportive. Tout de suite, on continue de parler de sport ce soir avec de l'athlétisme dans le débat, de l'athlétisme, du cyclisme. Ah, le lapsus,
c'est
voilà.
De l'athlétisme à pédale.
C'est ça, de l'athlétisme à pédale. On utilise les jambes. Après les mondiaux en Australie et à l'approche de la fin de la saison de cyclisme, faites-vous un bilan positif de nos Français. Ouais, vous avez vu ? Ça s'appelle le débat, ça va se taper. On met les gants, on met le protège-dents. On va commencer par vous, Corentin. Quel est votre avis ? Quel est le bilan de nos Français ? Positif, négatif, neutre peut-être ?
Une fois n'est pas coutume, on va avoir peut-être la position du
Pourquoi je vous dis de venir ?
C'est
terrible,
même,
hein. Vous n'avez pas d'avis ?
Je trouve quand même que le bilan il est assez négatif pour nos Français.
Merci.
C'est très compliqué, comme l'a expliqué Eric sur son flop avec Julien Alaphilippe qui a connu une saison très compliquée. Pour moi, la seule éclaircie, c'est justement la victoire d'étape qu'a pu faire Christophe Laporte, ainsi que sa seconde place au championnat du monde. Mais à part ça, c'est vrai qu'on a eu très peu de choses à se mettre sous la dent. Alors, on sort quand même de belles années avec notamment Julien Alaphilippe qui se battait pour le maillot jaune, qui a eu deux maillots de champion du monde. Un Thibaut Pinot, perdant magnifique aussi. Qui on avait placé beaucoup d'espoir.
C'est un peu comme au rugby, on a des défaites encourageantes.
Il faut dire que le cyclisme français était quand même porté sur le devant de la scène pendant les années 2019-2020. Et là, depuis l'apogée de Tadej Pogacar, c'est plus compliqué, on va dire, pour nos Français de tirer leur épingle du jeu, même sur les classiques, on l'a vu. Quoi.
Surtout que c'est un petit peu l'année ou jamais pour des anciens jeunes, on va les nommer comme ça. Ils ont pris de l'expérience, je pense à Evenepoel, Pogacar, Van Der Poel, Vingegaard. Voilà, vous connaissez mieux ce monsieur que moi. Oui, évidemment. Ces anciens jeunes, comme on peut les appeler, eh bien, il va falloir compter sur eux pour avoir des victoires finales. Le problème, c'est que est-ce que nos Français sont aussi bons que ces petites pépites qui ont pris de l'expérience ? Est-ce que c'était pas l'année ou jamais pour les Français ? Est-ce qu'on n'est pas passé à côté ? Eric, vous faites non de la tête.
Vous parlez quoi du Tour de France ?
Mais du Tour de France, du championnat du monde, il y a beaucoup de.
Le successeur de Bernard Hinault va l'attendre encore longtemps.
Oui, c'est un peu. Est-ce que vous.
C'est comme pour Yannick Noah.
Qu'est-ce qui va arriver en premier, le Roland Garros ou le Tour de France?
Oui, non, mais Pogacar a 24 ans, Evenepoel en a 22, Vingegaard en a 25. On n'a aucun coureur de cette génération, et même, je pense, des générations qui arrivent, même si je ne les connais pas très bien, qui sont de cette classe.
Donc pour vous, le bilan
des Lions, on en a encore, je pense, pour au moins 5 ans, peut-être même 10 avant d'avoir un vainqueur français sur le tour.
Pour vous, est-ce que le bilan est positif pour les Français cette année?
Non, je serais un peu plus nuancé que Corentin, mais...
Bon, il est extrême, c'est vrai.
Non, mais il y a une chose très simple. L'an dernier, on a gagné deux classiques. Il y a eu la Flèche Wallonne, Paris-Tours, et un championnat du monde. Oui. Là-dedans, il y a deux victoires de Julien Alaphilippe, et donc il y a Arnaud Démare qui a gagné de nouveau, qui a gagné son deuxième Paris-Tours hier. Bon, lui, il a passé la trentaine, Alaphilippe a 30 ans, et cette année, on ne l'a pas vu, malheureusement, pour les raisons que l'on sait. Le bilan s'en ressent. Donc on a l'impression que c'est quand même un coureur qui tient un peu à bout de bras le cyclisme français depuis quelques années. Moi, j'en vois pas d'autres arriver, alors... Pourquoi
plus,
je nuance
spécifiquement grave,
Laporte a non seulement fait deuxième au championnat du monde, mais il a fait deuxième aussi à Ganvevelgem, battu par un nouveau phénomène aussi, Binyam Germel, ce coureur érythréen.
Oui.
Qui aurait cru qu'un jour un coureur érythréen gagnerait une classique.
Et, c'est vrai.
Je vais ajouter quand même Benoît Cosnefroy, même s'il est extrêmement irrégulier pour des raisons que j'ai un peu de mal à saisir pour l'instant. Il a quand même fait deuxième à la Swim Gold Race, battu de très peu par Kwiatkowski. Il a gagné le Grand Prix de Québec. Il a déjà fait des secondes places, des deuxièmes places à Paris-Tours, et je ne sais plus, une autre course aussi, une autre belle course.
L'Amstel, Eric, deuxième de l'Amstel.
Voilà,
oh là,
deuxième
oui,
de
on
l'Amstel
a encore,
cette année, absolument.
On a encore Hubert Hennecker au téléphone qui participe avec nous au
donc,
débat.
Bon, lui, il a 27
je
ans.
Je vais dire mon avis.
Il a 27 ans, on l'attend depuis plusieurs années, il n'arrive pas encore. Il a fait, ça y est, j'ai trouvé, il a fait deuxième de la Flèche Wallonne en 2020, donc il a fait des belles deuxièmes places sur de très belles courses. Est-ce qu'il va arriver à concrétiser? Il a gagné le Grand Prix de Québec où il y avait tout même Van Aert et Pogacar. Bon, peut-être que lui, on peut espérer qu'il en décroche une belle, mais en dehors de ça, non, je ne vois pas arriver aujourd'hui serait-ce que le successeur de Julien Alaphilippe.
Vous êtes assez pessimiste.
En espérant que Julien Alaphilippe va encore
pour ce bilan
quelques années encore pour gagner des courses.
Avant de demander l'avis de Coraline, on va demander l'avis de Monsieur Redeker qui est encore avec nous.
Voilà, alors,
est-ce que pour vous le bilan des Français est positif cette année?
C'est le meilleur depuis une vingtaine d'années. Je m'explique.
Allez-y.
La France, au classement des nations UCI, n'a jamais atteint ce niveau depuis plus de 20 ans. Elle est deuxième. Derrière la Belgique et devant toutes les autres nations. Bon, quand on regarde le bilan, il y a un nombre de victoires qui n'a jamais été atteint, hein, il faut le dire. Alors, Cosnefroy, bien sûr, a gagné le Grand Prix du Québec, qui est une course World Tour. Madouas a été troisième du Tour des Flandres. Bon, Cosnefroy a été seconde de l'Amstel après avoir été déclaré vainqueur. Turgis a été second de Milan-San Remo. Laporte a été second du championnat du monde, a gagné des courses aussi. Et il faut regarder ce qui se passe chez les jeunes. Alex Zengle a fait une année remarquable. Mathis Louvel, néo-pro, a gagné une semi-classique belge et s'est classé, alors qu'il est pro depuis très peu de temps, d'ailleurs 8e de Paris-Tour hier. Mathis Louvel s'est classé dans beaucoup de top 10 depuis le début du mois d'août.
Donc voilà. Au final, les sportifs...
Il y a Axel Laurence aussi, oui. Okay. T'as bon courant, Axel Laurence.
Je vais continuer.
Il y a encore de belles perspectives d'évolution, voilà. Au final.
Et Louvel, néo-pro, apparaît maintenant dans les 40 meilleurs mondiaux au classement UCI. Alors, il y a Laffey aussi, qui est un puncher remarquable. Et parmi les sprinteurs, il y a Zeng, il y a Axel Laurence, qui a été second derrière Van Aert de la Bretagne classique. Et il a failli battre Van Aert. Il a gagné une magnifique étape au Tour de Croatie. Il a été très bon au Tour du Danemark, de même que Zeng d'ailleurs, et que Vauclin aussi. Et tout cela, c'est quand même... Alors Sénéchal a fait des places dans les classiques aussi au printemps. Et tout cela, c'est, je trouve, très positif. Alors même si on ne voit pas de vainqueurs de Grand Tour dans cette génération. Par contre, dans toutes les autres courses, ils sont brillants.
Éric Dupri nous a parlé beaucoup de Julien Lafilippe qui porte cette équipe de France. Est-ce que vous pensez, vous, monsieur Redeker, que l'année prochaine, il va y avoir un sursaut d'orgueil de Julien Lafilippe ?
Je n'en ai aucune idée.
La question, c'est est-ce qu'il a récupéré complètement
de sa blessure,
c'est
perforé.
Ça reste encore un point d'interrogation.
Oui, c'est ça. Parfois, on ne récupère jamais.
Ouais.
L'orgueil du champion ne va pas faire qu'il va avoir peut-être plus envie, malgré un petit peu...
S'il n'a pas de pépin physique, oui.
Là, il croyait qu'il était prêt.
Ouais. On a vu le résultat, oui.
Bon, le championnat du monde aussi, il croyait qu'il était prêt, et puis s'est vite aperçu que c'était pas vraiment le cas. Donc je crois qu'il a le moral, mais les chutes qu'il... Parfois on ne se rêve pas des chutes. Alors d'autres fois... Ah oui, je voulais quand même tirer un coup de chapeau à l'un des plus grands coureurs de l'histoire du cyclisme, qui prend sa retraite, oui. C'est Valverde.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Valverde, c'est fait partie du top 20 de l'histoire du cyclisme.
Sixième du Tour de Lombardie à 42 ans.
Hein. Oui, à 42
énorme.
Ans.
Alors que moi, même pas 30 ans, je fais trop de vélo.
Une des courses les plus dures de l'année. Hein, ouais.
Voilà, c'est comme quoi.
Voilà.
Palmarès extraordinaire. Donc, Alejandro Valverde.
Oui.
Et on peut dire la même chose, même Philippe Gilbert, c'est un palmarès exceptionnel aussi. Hein.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Redeker, de nous avoir donné votre avis sur ce débat après les mondiaux. On voit que bon, ça divise un petit peu, on n'est pas tous d'accord, évidemment.
Mais pour la France, il est positif, je trouve. Et puis, il y a des mares également.
Oui, voilà, plein de bonnes choses pour les.
C'est sûr, c'est un bilan qui n'est pas nul, ça.
Pour les sportifs français.
Il y a une chose que je voulais rappeler tout de même, c'est sur les 5 derniers championnats du monde sur route, les Français, il y a 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent tout de même. Il faut le rappeler.
Donc il n'est pas si mauvais que ça.
Non,
au final,
le collectif français.
Vous avez dit qu'il n'était pas terrible.
Non,
maintenant,
le collectif français
est bon,
mais en dehors de Julien Lafilippe, on n'a pas un top coureur capable de.
C'est l'équipe de France, au final.
À ce jour. Je dis bien à ce jour.
À ce jour, très bien. Eh bien, quoi, on ne sera jamais peut-être d'accord.
On verra les jeunes. Non, mais on verra les jeunes dans les 2-3 ans qui viennent.
L'espoir est là. Coraline, un mot peut-être sur le vélo. C'est bon, vous faites une bonne micro-sieste du côté de la régie.
Micro-sieste, exactement. Non, mais je voulais adresser effectivement. Un bilan un peu plus mitigé, effectivement, pour les grands tours, on en parlait. Le Tour de France, quand même, faut quand même le citer, quand même 4 Français dans le top 15. On a eu pire quand même, 4 Français dans le top 15, dont Gaudu 4e et 7e pour Bardet.
Gaudu qui va continuer de performer. Hein. Après, il est spécialiste de certaines étapes, donc est-ce que ça va lui permettre tout de même de gagner un Tour de France?
Surtout, il faut voir la génération qu'il a en face de lui.
Oui, aussi, il tombe sur une mauvaise période, on va dire, parce qu'il y a de sacrés morceaux en face. Merci beaucoup, Robert Redeker, d'avoir été avec nous.
Merci.
Allez, tout de suite, on clôture ce débat avec la chronique sur Radio Présence.
Esprit Sport, la chronique.
La chronique de la semaine dernière nous a emmené du côté du nord de la France, dans la Sarthe plus précisément. On reste un petit peu dans ce coin-là, parce qu'aujourd'hui, je vais vous emmener à Deauville. À 200 km de là, oui, j'ai mesuré avec Google Maps. Récemment, il y a eu du golf. Après 4 éditions à Bordeaux, le Lacoste Ladies Open de France s'est déroulé donc en Normandie, a vu s'affronter sur le green de 108 joueuses issues de 25 pays différents. Un énorme événement pour le golf. Parmi elles, de grands noms du golf français et international, tels que Céline Boutier, la numéro 1 française et actuelle 16e mondiale, ou encore la tenante du titre, Anne-Lise Claudal était là, et la tenante du titre, c'est la première française, celle qu'on a citée avant, Céline Boutier. Ce nouveau cadre rimait en effet avec certains nombres d'activités proposées pour attirer de nouveaux publics. On sait que le golf, c'est un sport qui dure longtemps, qui n'est pas forcément très spectaculaire, à moins de coups exceptionnels qu'on ne voit que sur les résumés. Alors le tournoi était gratuit, accessible pour tous, avec des activités. La marque au crocodile a réussi à mettre un petit peu les petits plats dans les grands en organisant une exposition d'œuvres d'art au cœur du parcours. Une grande première, la première fois qu'il y a ce genre d'événement. Tout a été mis en œuvre pour valoriser cet événement et le golf féminin. Alors amateurs de golf ou d'art contemporain, il y en avait pour tout le goût. Le but, c'est de faire découvrir cet art contemporain aux gens qui viennent naturellement pour le golf et aussi d'avoir un élément d'attraction pour faire venir un public qui n'est pas forcément golfeur à la base, a expliqué Jean-Baptiste Durier, le directeur de l'événement. Le samedi 27 septembre, c'est une golfeuse marocaine qui a été sacrée sur le parcours. Elle a seulement 24 ans, elle a remporté aussi sa première victoire professionnelle dans sa carrière, la première joueuse marocaine et arabe à remporter cette compétition au bout de 34 éditions. Un passage court du golf féminin, au final, dans cette chronique, pour mettre en lumière les initiatives qui sont prises en France sur le sport féminin. Est-ce que vous seriez allé voir, vous, une compétition de golf féminin, Eric?
Non, parce que le golf en général ne me passionne
pas. C'est pas intéressant. Et là, le fait qu'ils aient mêlé quelques activités, qu'ils ont proposé une exposition d'art contemporain, ça vous aurait peut-être motivé à y aller?
Non plus.
On rappelle que c'est gratuit, hein?
Oui.
Oui, non, non. Vous, le golf,
non.
Quarantaine, peut-être.
Moi, ça m'aurait bien intéressé.
Le golf, peut-être
le
pas,
golf,
mais...
Si, le golf, j'aime bien. C'est,
très bien.
J'aimais bien regarder quand j'étais un petit peu plus jeune, des fois le samedi soir, après les matchs de foot, on avait des rediffs de certains tournois de golf. Bon, à l'époque, Tiger Woods, voilà.
Effectivement, ouais.
Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de voir un tournoi vraiment dans des conditions de... réel, et puis avec l'exposition à côté, je pense que c'est peut-être aussi l'avenir pour ces sports-là, qui sont difficilement accessibles pour les publics, d'essayer d'intéresser justement de nouvelles personnes avec soit des attractions, soit un petit peu des expositions comme ça a été fait là. Je pense que c'est une très bonne initiative à mettre en avant.
Coraline, je vous sens l'âme golfeuse, vous.
Alors, l'âme golfeuse, j'en ai fait une fois, c'était pas franchement une réussite.
Mais un peu comme les jeux qu'on fait tous les soirs depuis...
Exactement, en fait, j'ai une persévérance.
Est-ce que vous êtes forte quelque part, Coraline?
En régie, très bien.
Voilà, ouais, peut-être.
Oui, je confirme.
Voilà. Du coup,
il a l'air convaincu, Eric.
Ah ouais, vous êtes doué.
Du coup, le golf,
non, mais
peut-être
effectivement,
pas.
Comme le golf, certainement pas. Mais effectivement, c'est une bonne chose de mettre en avant les sports féminins. Et si ça peut se faire par le biais de la culture, tant mieux.
Pourquoi pas? Voilà, intéressez-vous à ce qui se passe proche de chez vous. Il y a des événements comme ça un petit peu particuliers. On en parlera tout au long de cette année. Voilà, c'était la petite chronique. On va sûrement, j'espère, revenir en Occitanie la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Tout de suite, l'idéal, on joue sur Radio Présence.
Esprit Sport, le jeu.
Il est l'heure de jouer, toujours cette petite musique qui nous rappelle qu'il est l'heure de participer au jeu. On a vu les appels, les gens qui ont participé, qui ont donné leur choix sur Eric, sur Corentin, sur Coraline. Qui des trois va gagner? Eh bien, ce sera tout de suite. C'est tout de suite d'ailleurs. Après les charades, on oublie. On va les mettre de côté quelques temps. Vous n'avez pas compris autour de la table, c'est pas grave. Merci d'être là. En tout cas, ce soir, c'est des extraits. Et justement, le premier extrait qui arrive, attention, messieurs, dames, soyez bien vigilants à ce qui va être diffusé. Juste après, j'ai une question à vous poser.
Elle est là! Elle est là! La victoire d'aujourd'hui! Eh oui! Victoire d'un Français en Hongrie! Il l'a fait! Lui aussi, il l'a fait! Il rejoint la liste des Français!
Ça, c'était le premier extrait. Vous l'avez tous à peu près saisi. Je vais vous poser une question, attention. Il va falloir me dire votre prénom, comme ça au moins. Voilà. Ça s'embête pas. Qui a gagné ce jour-là?
Corentin.
Oui.
Esteban Ocon.
Félicitations. Et petit bonus, plus un si vous avez le numéro de la voiture qui a gagné.
Déjà la marque, ça serait bien.
J'ai pas le numéro.
Vous avez pas le numéro?
Non.
Non? Ah, et la marque? Alpine.
C'est Alpine.
Ça, c'est facile. Va. Non, bah, il y aura pas le plus un parce que le numéro de la voiture, c'est 31. Comme la Haute-Garonne. Voilà. 0 pour Corentin, toujours 0 pour Eric, c'est assez étonnant. Et 0 pour Coraline.
Il fallait que je joue là? Ah, j'ai pas compris.
Non, non, mais on dit non, mais je
ne. Il reste à Corentin, donc bon.
Je me tais. Oui, non, mais il y a d'autres extraits, Eric.
Je n'avais pas trouvé tout
ça. Ne paniquez pas. Vous suivez pas la F1, Eric?
Je ne suis plus la F1.
Plus la F1, ça ne vous intéresse plus.
Je suis de la génération Prost, c'est
normal. Oula, oui, oula. Oula. Vous avez vu un Grand Prix de Prost à Pau?
Non.
Non, c'était où?
Non, moi je l'ai vu courir en Formule 3.
Ah voilà, c'est déjà bien de l'avoir vu.
J'avais 11 ans, vous savez, voilà, ça
date. Bah, c'est tout à votre honneur, Eric, c'est tout à votre honneur.
Il était champion d'Europe juste avant qu'il commence en Formule 1.
Attention, deuxième extrait, écoutez bien.
Ah, et bien le winner, The Winner is Romain Bardet à Saint-Jean-de-Maurienne. Savoure, gamin. Vas-y, il a 24 ans, je peux dire gamin. Elle est là, bravo, super grand bravo. Deuxième victoire française.
Et ouais, voilà, mais Romain Bardet, il est là, c'est bien, mais lors de quelle année? Cette victoire date de quelle année?
Ça c'est dans le Tour de France, en quelle année? Oui, c'est une bonne question.
Quelle année?
C'est en 2014?
Non, 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 ça c'est sûr que non.
2019?
2015?
Eric, 2015. 2016, donc Eric, vous avez la main. Ben, me dites pas une autre réponse, Eric, si je vous dis qu'elle est bonne. Plus un, si vous avez le numéro de l'édition de 2015. C'était le Tour de France numéro combien, Eric? Je compte sur vous, c'est du vélo. Hein.
C'est pas le 101ème.
102.
Non, mais vous parlez pas, Coraline, je dis Eric.
C'est
Eric
pas le 101ème, c'était pas la 100ème année.
Une seule bonne réponse.
Juste une 101ème.
101ème, non, c'était la 102ème. Ça fait un pour Eric, un pour Coraline, mais c'est pas dessus. C'est à peu près. C'est pas le juste prix, c'est la bonne réponse. Un pour Corentin, un pour Eric. Et merci d'être là, Coraline.
Excusez-moi de vous réveiller. Je l'avais quand même.
Elle avait la 102e édition.
Je crois que les auditeurs ont compris que vous pipez rien.
J'avais la 102e, Corentin l'a eu.
Très bien. Attention, troisième extrait.
Macalé, Ribéry. Ribéry pris dans notre temps avec le relais. Oui, Viera. Et il y a du pas en jeu, Ribéry. Ribéry tout seul. Ribéry qui va projeter. Ribéry qui va égaliser.
Ouais. Oula,
je sais quel match.
Ça vous a mis les poils. Attention, la question. Quel était le score final de ce match?
3-1.
Ah, Eric Dupri, il a été tellement rapide. C'était un France-Espagne pour la Coupe du Monde 2006, le 27 juillet. C'est Franck Ribéry, le but mythique, qui a marqué le premier en équipe de France. Attention, quatrième extrait.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible.
Donnez-moi votre prénom.
On peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied.
Attention, il y aura deux questions. La première, donc vous me dites, je vous pose la première question. Et ensuite, vous me dites votre prénom. Oh là, je vous ai entendu là. Attention, qui parle?
Thierry Roland.
J'ai dit, oui. Bah mais oui. Alors, il y en a dit, ils sont deux, du coup.
Non.
Là, ils sont deux. Dans ce match-là, ils étaient deux mais à compter.
Il y a l'arqué, Jean-Michel
Larqué. Ouais, excusez-moi. Ouais. Mais regardez, même Coraline ne suit pas, là, la pauvre. Elle est dépitée. Bon, Coraline lance aussi les sons. Eric, est-ce que vous avez la date exacte de ce match?
Bah, c'est 12 juillet 1998. Voilà. C'est à peu près ça.
C'est à peu près ça, voilà. 4
même
pour
moi, j'étais devant ma télé, c'est vous.
4 pour Eric, 1 pour Corentin et Coraline. Merci d'être avec nous ce soir. Attention, cinquième et dernier extrait, même si l'affaire est, me semble-t-il, déjà pliée.
Florent Manodou qui est toujours devant avec Kulen Jones qui revient, c'est Marcelo derrière. Florent Manodou peut-être pour aller plus loin. Allez Florent, c'est maintenant.
Voilà, on a entendu. Oula, oula, doucement, Laure. Doucement, Laure. C'est Laure Manodou qui était derrière. Alors attention, messieurs, dames, vous me dites votre prénom et après la réponse, d'accord? Attention, sur quelle distance?
50 mètres, Eric. 50 mètres. 50,
ouais. Voilà, mais il est imbattable, ce monsieur Dupri. Hein. 5 pour Eric.
Je vais même vous donner le temps.
Allez-y.
21-34.
Oui, j'irai pas vérifier. Elle nous. Madame Courline, vous nous le faites, vous nous vérifiez le temps ?
De suite.
Voilà, de suite. Eh bien, félicitations pour la bulle, Coraline. C'est vous qui lanciez les extraits. Allez, je vous mets un point. Non, sinon, même pas. Merci, Corentin.
J'ai quand même eu la 102ème.
La
102ème.
Non, c'était pas...
C'est un escroc.
Merci. C'était une question à 10 points, donc c'est elle qui a gagné.
Oui, évidemment, évidemment. Merci d'être là, Coraline. C'est vous qui lancez les extraits et les sons, donc on ne vous en veut pas. On est ravis que vous soyez là, ce soir. Du coup, le temps, Coraline, vous l'avez trouvé ou pas du tout ? C'était en 2012 aux JO Olympiques.
Je cherche, mais...
Très bien, ben, sinon, vous embêtez pas. On peut passer au pronos si vous voulez, Coraline. Si ça vous dérange pas. Allez, tout de suite, on fait les pronos. Jingle à l'américaine pour les pronostics. Le bon pronos, attention. Voilà, magnifique. On garde cette petite musique d'ascenseur qui est avec nous. On félicite tout de même Coraline qui n'est pas bonne pour le jeu mais qui a fait de bons pronostics. 3 sur 3 la semaine dernière. Félicitations Coraline, ça s'applaudit. Vous avez fait un 3 sur 3. Vous êtes meilleur quand les matchs n'ont pas lieu. Ensuite, après un week-end donc intense, attention, je vous propose un pronostic. Dimanche au stadium. À 13h, le TFC 11e rencontre Angers 17e pour ce duel pour la relégation. Un pronostic, Eric, quel est votre pronostic ?
Faut que je donne un score ?
Non, qui gagne ?
Le TFC.
Le TFC, Eric dit le TFC. Corentin.
Ouais, le TFC aussi.
Le TFC aussi, Coraline.
Le TFC, 21-34, c'était
aussi.
Bien.
C'était bien, eh bien. Oui, mais vous avez déjà perdu, Coraline, c'est pas grave. Et moi aussi, je dis le TFC. Et on n'a plus le temps pour deuxième match.
La question, c'était la bonne réponse de
oui,
Eric.
Oui, oui, non, mais je lui fais Eric, c'est une bible. Je lui fais confiance aveuglément. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, Eric, pour cette première.
Oui.
Y aura-t-il une deuxième, Eric ?
Oui, c'est invité.
Ben voilà, très bien. Merci d'avoir été
moi,
avec.
Moi, je connais que le cyclisme.
Merci d'avoir été avec nous
la
ce soir. On se retrouve lundi prochain à partir de 19h. Très bonne soirée et à lundi.